this fight going on?
Outside Kabul.
Épisode 4. Mars 2023. Fête et pizza pour la toute première fois.
On commence cet épisode avec une description qui me plaît beaucoup. Une vue sur Islamabad. Raha, afghane de 23 ans, est réfugiée au Pakistan depuis peu. Elle espère pouvoir rejoindre rapidement l'Europe. Et en attendant, elle décrit la vue depuis son nouvel appartement de transit.
We have a small balcony here.
On a un petit balcon ici et j'ai une super vue. Je vois des garçons qui viennent jouer. Ils font du cerf-volant, du foot et il y a un chien qui aboie.
Oh,
je viens de voir qu'il y a des vaches. Dans notre quartier, il y a des vaches. Donc je vais fermer la porte. Je ne veux pas qu'il y ait des bêtes qui rentrent.
Raha envoie des sons et fabrique ce podcast avec son amie Marwa. Elles pensaient toutes les deux témoigner quelques semaines au lendemain de l'arrivée des talibans. Et puis le projet a pris de l'ampleur, et ça fait désormais plus d'un an qu'elles enregistrent leurs journaux sonores. Il a fallu apprendre à trois, à distance, à gérer les conséquences sécuritaires imprévues de ce travail. Témoigner les met en danger.
J'ai un peu peur parce que ça peut être dangereux pour nos familles. Essaye de quitter l'Afghanistan, c'est ce que mon père m'a dit. On ne peut rien prévoir ici.
Hera a finalement quitté l'Afghanistan pour le Pakistan, d'où elle espère donc rejoindre la France. Ra et Marwa ont été payés pour leur travail sur ce projet, ce qui a eu comme effet imprévu mais essentiel qu'elles ont pu être considérées comme journalistes par l'ONG Reporters sans frontières. Elles ont dès lors reçu de l'aide avec les démarches administratives et pour trouver ce petit appartement où Ra se trouve aujourd'hui. On est en avril, il fait chaud. Et le ramadan a commencé. Le son suivant qu'elle a envoyé vient de la cuisine, où se trouve aussi Ashad, son mari, qui est en train de l'aider à faire du bolani, une crêpe fourrée aux légumes. Les plus attentifs auront remarqué que ça fait plusieurs fois qu'on parle de ce repas traditionnel afghan ici. On mettra la recette sur le site internet, et je vais leur demander aussi une recette de quelque chose de plus facile. Le bolani, c'est pas simple, et d'ailleurs, Raha galère.
C'est la première fois que je cuisine pendant le ramadan. Ok, YouTube c'est pratique, mais là c'est un plat traditionnel et je suis vraiment nulle en cuisine. Et je suis contente que mon mari lui soit fort et qu'il soit ok avec ça. Il m'aide beaucoup en cuisine.
J'apprends à connaître Ashad, le mari de Raha, à distance. Il est désormais dans presque tous les plans sonores. Il la laisse enregistrer, il ne dit pas grand-chose. Il semble très doux. J'essaie de deviner ce qu'ils se disent. Peut-être sans doute des choses palpitantes du type « Est-ce que tu es sûr qu'il fallait mettre autant de farine ?» Je suis soulagée qu'il soit bien dans cet appartement, mais en vérité, on est tous un peu stressés. On espère que la France leur accordera le droit d'asile. On espère aussi que ce sera avant que leur visa pakistanais n'expire. Avant aussi que le délai des semaines de grossesse ne soit dépassé pour prendre l'avion. Raha est enceinte de 6 mois déjà. Pendant ce temps-là, en France, Marwa cuisine aussi pour la rupture du jeûne. Elle est seule dans la mini-kitchenette de son studio, sur le campus.
I'm making chicken.
Je prépare du poulet pour faire un hamburger.
It feels kind of joyful for me.
Ça me rend heureuse de faire ce jeûne.
You do something you believe in.
C'est quelque chose en quoi je crois.
And you have this opportunity to see how much capable.
Ça permet aussi de se rendre compte à quel point on peut être fort.
It is the first year that I'm doing Ramadan all alone by myself.
C'est la première année que je fais le Ramadan toute seule.
And the interesting thing is that we are supposed to have.
Et sinon, j'ai appris qu'il y allait avoir des soirées organisées ici pour la rupture du jeûne et des repas à l'université. C'est génial, je pourrais me faire de nouveaux amis. J'ai beaucoup parlé. Bon, j'ajoute du fromage sur le poulet.
On a constaté dans l'équipe que cet épisode pouvait donner faim aux adeptes de friture. Marwa s'éloigne de son futur burger pour aller vers la fenêtre.
There was a parking area in front of
Il y a un parking devant ma résidence.
Et il y a toujours une petite Mini Cooper garée là. J'adore les Mini Cooper. Bon, pas cette couleur, elle est grise. Mais j'aimerais trop en avoir une rouge ou peut-être une jaune. Les femmes ne pouvaient pas conduire en Afghanistan. Maintenant, au moins, je sais qu'un jour, j'aurai ma propre voiture. Peut-être que j'essaierai de passer mon permis l'année prochaine, si j'ai le temps et l'argent.
Marwa, parfois, est une jeune fille de 25 ans. Elle a les rêves de son âge. Je l'imagine dans une Mini Cooper rouge et j'ai vérifié, il y en a même des décapotables. J'adore qu'elle ait dans la même phrase un rêve flamboyant et une idée très terre-à-terre de comment y arriver. Elle fait des plans, elle se construit une idée de la jeune femme qu'elle voudrait être, elle veut profiter de nouvelles opportunités et aussi trouver des façons de rester connectée à sa culture et à sa religion.
Je me suis mise à porter le voile. Je voulais t'en parler. Ça fait environ 2 semaines. L'année dernière, en Afghanistan, je ne me couvrais pas la tête. Et c'était rare pour une femme en Afghanistan. Ah, coucou, ça va ? Bien, merci. Je viens de croiser une fille de ma classe. Je ne sais pas si elle vient des États-Unis, de Corée ou de Chine. Bref, je pense que dernièrement, je me suis, disons, rapprochée de mon Dieu et que notre relation a évolué. C'est venu de l'intérieur, de mon cœur. Vraiment, il n'y a pas de pression extérieure de la part de ma famille ou de mon mari ou quoi. Même si on est tous croyants. Donc voilà, c'est juste un jour, je me suis dit, ok, je le fais. Je crois en mon Dieu. C'est ce qui le rend heureux. Et ça n'a rien de négatif.
Et
ce qui est trop bien, c'est qu'on me fait des compliments. Certaines personnes me disent, oh, moi aussi, je suis musulmane, mabrouk. Des filles libanaises ou arabes. C'est vraiment une bonne chose que chacun ait le choix et que sa relation avec Dieu, son cheminement spirituel soit respecté. Même si j'ai entendu qu'en France, les gens n'aiment pas les musulmans ou n'aiment pas que les femmes se couvrent la tête. Mais moi, j'adore. J'ai l'impression maintenant que c'est la vraie Marwa, que je ne renie pas qui je suis. Je respecte les autres ici et ils me respectent comme je suis. Il y a des gens qui jouent, je ne sais pas ce que c'est comme sport, mais ils sautent et tout. Un peu comme de la gym, mais ce n'est pas de la gym, j'en suis sûre.
J'adore ce message, même si fondamentalement, je ne le comprends pas. Comme dit Anna Bui, la réalisatrice de ce projet, je suis athée comme un clapet de bidet. Quand je lui demande ce que ça veut dire, elle explique qu'un bidet, ça voit des choses très moches toute la journée, et que ça ne peut donc pas croire en Dieu. J'espère que vous arriverez à replacer cette expression. Bon, donc je suis athée, et je trouve ça de plus en plus intéressant d'échanger avec Marwa. Depuis qu'elle est en Europe, ses observations, ses transformations m'aident à mieux comprendre d'où elle vient et ce qu'elle perçoit de nous ici. Au Pakistan, Ra reçoit le mail qu'elle attendait depuis des semaines. Elle est convoquée à l'ambassade de France pour venir chercher son visa. On dirait qu'on voit enfin le bout du tunnel. Elle envoie des messages avec des émojis cœurs et des cotillons partout. De mon côté, je suis invitée au Canada. Là-bas, un confrère me dit... Dans le balado, puisque c'est comme ça qu'on appelle un podcast au Canada, la démarche fait partie du contenu. Et c'est pour ça que je me permets de vous parler de ce qui suit. Ce soir-là, j'ai rendez-vous avec mon ami Jules, qui vit là à Montréal et que je n'ai pas revu depuis des années. En chemin, je m'arrête dans un café pour échanger avec Raha. Elle m'a dit qu'elle avait des questions en amont de son rendez-vous à l'ambassade de France le lendemain matin. Je me rends compte alors qu'il y a un énorme formulaire à remplir en ligne. Je l'appelle. On parcourt le document. On passe d'une case à l'autre. Au bout de quelques pages, il faut le nom et l'adresse de quelqu'un qui l'hébergera à son arrivée en France. Je me demande ce que ça implique comme engagement. Mais là, on n'a pas d'alternative. Alors je mets mon adresse. Il est tard et je ne comprends pas pourquoi on fait ça maintenant. Quand j'ai donné toutes les infos, je pars rejoindre mon amie. J'ai 1h30 de retard, je la laisse. Alors qu'il est 2h du matin chez elle à Islamabad. Il faut qu'elle soit debout à 7h pour son rendez-vous à l'ambassade. Elle est enceinte de 6 mois. On m'a dit, ne t'attache pas trop, mets des limites, alors j'en mets. Et puis je me dis, il faut qu'elle apprenne à être autonome sur les questions administratives. Mais moi, il suffit que je le décide pour arrêter tout ça et aller boire une bière avec un ami. Elle, elle joue sa vie. Avec Jules, on va visiter une expo, puis on va dîner, on rigole, et je finis par oublier l'Afghanistan. En rentrant à l'hôtel, je me rends compte que Raha est toujours connectée. Elle n'a pas dormi. Elle vient de terminer son questionnaire. Il est minuit au Canada, il doit être 5h du matin à Islamabad. Il faut faire un virement de 200 euros. Ma carte ne marche pas, on recommence 5 fois, c'est super stressant. Et je me demande, est-ce que je vais être à la hauteur pour l'accueillir en France ? Comment faire en sorte qu'elle ne regrette pas son choix ? Mais aussi comment faire en sorte que ça ne prenne pas toute la place dans ma vie. J'ai écrit des paragraphes entiers sur ces dilemmes. Et si la démarche fait bien partie du contenu, heureusement Anna Bu, la réalisatrice, a beaucoup coupé pour limiter ces épanchements auxquels je vous soumets. Le lendemain, on apprend que le rendez-vous à l'ambassade s'est bien passé. On peut réserver les billets d'avion pour Paris. La nouvelle est bien sûr arrivée jusqu'à Marwa.
Hey Caroline.
Salut Caroline, j'ai un peu froid. Je retourne dans ma chambre. Il est minuit. Je passe devant le bar du campus. Il y a la soirée de la semaine. Je suis jamais allée à ces soirées. Mais je crois que je pourrais pas rester debout comme ça jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Là, j'ai dîné avec des gens de ma classe. C'était super, il y avait des Espagnols, des Italiennes, des Indiennes et des Allemandes. C'est plus facile pour moi la vie sur le campus maintenant que je parle à d'autres gens et que je me fais des amis. J'ai mon coussin avec moi parce qu'on devait s'asseoir par terre, alors chacun devait apporter son coussin perso. Je me sens bien. Oui, et du coup, on a enfin eu des nouvelles de Ra. Elle a obtenu son visa pour la France. Je suis super heureuse pour elle. J'ai trop hâte de la retrouver, de la voir, de la serrer dans mes bras. Et d'avoir de longues conversations avec elle. Ça fait plus d'un an et demi qu'on ne s'est pas vu. Ok, je prends l'ascenseur. Il fait froid, mais j'adore. Pouvoir sortir avec mes amis, rentrer seule à pied chez moi, à minuit. Bien sûr, c'est sur le campus, mais quand même. Jamais j'aurais pu faire ça en Afghanistan, c'est dingue.
J'adore ces messages panoramiques. Marwa et Raha, de plus en plus, font de la création sonore en direct. Elle pense à quelque chose, raconte, s'accroche à un détail du paysage, le décrivent, elle laisse passer une ambiance ou une autre et reprennent le récit.
Il y a des gens à la laverie. C'est bizarre, comme ça, au milieu de la nuit. Ils font leur lessive.
Okay. Bye and have a good night.
L'arrivée de Raha en France est imminente, mais on ne trouve pas d'hébergement pour elle. On n'a aucune nouvelle des ONG auxquelles on a demandé de l'aide à Paris. Et Raha a des cousins lointains qui vivent en banlieue de la capitale, mais ils sont déjà entassés dans des petits appartements. Et ce ne sont que des hommes. On se dit que si on n'a rien d'autre, on lui louera un Airbnb. Raha ne sait pas ce que c'est. À ce moment-là, je suis aux États-Unis pour une résidence podcast de la Villa Albertine. Ça s'appelle Sounds of New York, c'est génial. Et oui, mon bilan carbone est problématique. Le jour, il y a des conférences sur le podcast. Le soir, je suis en lien avec Raha pour choisir des billets d'avion et me poser des questions du type « Est-ce que je dois proposer effectivement de l'accueillir, elle, son mari et leur futur bébé, chez moi pendant les quelques mois d'attente de logement social. Et j'ai peur que l'accueillir prenne trop de place, que ce projet devienne toute ma vie. J'ai un mouvement de recul. Je me pose toutes ces questions dont je ne sais que faire, et il s'avère que lors d'une des conférences, un intervenant, Serge Quevedo, parle justement de ces sujets. Il s'occupe, est-ce que ce n'est pas magique, d'un cours qui s'appelle « Relations dans le documentaire » à l'Université de Columbia. Je suis trop contente que ce métier existe et je lui demande s'il veut bien qu'on se retrouve dans un café pour qu'il m'aide à résoudre mes relations dans le documentaire.
Alors, par où je commence
Je lui parle de Marwa Erraa et de mes dilemmes. Comment manier cette matière sulfureuse et évolutive qu'est l'intime, comment la partager avec tous ceux et celles qui nous écoutent, sans rien abîmer pour personne.
Moi, j'ai eu une formation de journaliste à la radio. Et dans la plupart des médias où j'ai travaillé, hein, la règle de base, c'était de ne pas aider les gens, de ne pas leur donner d'argent, de
ne
pas devenir intime pour garder un rapport professionnel.
Pour ce qui est de l'argent, les journalistes qui font de l'info ne rémunèrent pas leurs sources. C'est fondamental. En documentaire, selon ce que je lis, c'est plus flou, parce que ça peut être des projets au long cours qui peuvent priver les protagonistes de revenus. Il peut donc parfois y avoir compensation. Moi, j'ai estimé qu'enregistrer des sons prenait du temps à Erraa et Marwa, et que ça représentait une charge mentale. Parfois, je leur pose des questions, je leur donne des idées de séquences à enregistrer, mais le plus souvent, c'est leur initiative. Et puis évidemment, même si on balise au maximum, c'est elles qui prennent des risques pour témoigner. Elles sont donc co-autrices, je leur explique ce que sont les droits d'auteur, et on discute de comment les partager.
Dans le journalisme, les règles éthiques, elles sont là pour garantir l'impartialité du journaliste vis-à-vis de ses auditeurs. Alors que dans le documentaire, elles sont là pour répondre à cette question, comment ne pas blesser les personnes avec qui on travaille. En fait, en vieillissant, j'ai de plus en plus de mal, moi, à séparer l'homme du journaliste, à séparer mes valeurs personnelles de celles que j'applique dans mon métier.
On essaie effectivement, avec Erraa et Marwa, d'apprendre à discuter de tout. Des familles, de ce qu'on dit ou pas dans ce podcast, et aussi d'argent. Et avec tout ce qui est en jeu, je pense qu'accueillir Erraa et sa famille chez moi, plus que quelques jours, ce serait franchir une limite qui me semble importante. Bref, je demande à Serge ce qu'il en pense.
Mon cœur me dit, donne tout ce que tu peux, rapproche-toi d'elle si tu te sens à l'aise, tu verras les conséquences plus tard. Mais une autre partie de moi, c'est vrai, se dit aussi que ces règles existent pour une raison, et peut-être qu'elles sont là pour limiter les abus, et clarifier ce qu'on attend les uns des autres, je sais pas.
But I don't know. Yeah, I really don't know.
En fait, moi-même, je cherche encore la réponse, pour être honnête. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de dire « La radio publique américaine dit que je n'ai pas le droit de faire ça, donc je ne vais pas le faire. » C'est très différent d'assumer et de dire « Je ne vais pas donner d'argent parce que je ne sais pas si je serai capable d'aider cette personne sur le long terme. » Ou de se dire « Je pose des limites affectives parce que je ne suis pas capable psychologiquement d'avoir ce type de relation sur le long terme. » Il faut faire preuve d'une honnêteté parfois brutale avec soi-même pour pouvoir se dire « Voilà mes limites de documentariste, de journaliste. » Parce qu'on influence les personnes avec qui on travaille, qu'on le veuille ou non, et donc dire « ce n'est pas ma responsabilité » ou « ce n'est pas mon travail », c'est quelque part ignorer son propre pouvoir.
Comment est-ce que vous expliquez le fait que ce projet il me procure tellement d'émotions et que ce soit tellement compliqué pour moi? J'ai l'impression que j'ai déjà travaillé des années, et que là, c'est très différent. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi?
Quand on choisit ce métier, j'espère, et je crois, que c'est inévitable qu'on ressente une certaine intimité, un déchirement intérieur, un attachement aux personnes avec qui on travaille. Le monde moderne nous éloigne les uns des autres et les histoires, elles, nous rapprochent à nouveau.
Dans des moments comme celui-là, je me dis que finalement, j'ai une certaine tendresse pour l'Amérique. Peut-être qu'il n'y a que là-bas qu'on sait dire comme ça de façon assumée l'amour des histoires. Le départ approche. Erraa est à sa 32e semaine de grossesse. la compagnie aérienne n'accepte pas les voyageuses enceintes de 33 semaines. On est passé très très près. Raa va une dernière fois voir sa gynécologue. Elle lui fait un papier pour certifier qu'elle peut prendre l'avion et lui prescrit une injection à faire 24 heures avant le vol pour éviter un accouchement prématuré. Et puis au milieu de tout ça, de tout ce stress, je reçois ce message absurde et génial.
Wow.
Sa première pizza.
I don't know.
Je sais pas si c'est parce que j'ai super faim.
This pizza is so delicious.
Ou si cette pizza est vraiment délicieuse. Il est 2h45 du matin et là on est en train de dîner. Je sais que c'est pas terrible, mais on était super stressés. On avait tellement de trucs à faire. Je savoure là, c'est merveilleux. Le goût est tellement dingue, les ingrédients se marient trop bien. Pourquoi est-ce que j'avais jamais goûté ça avant? Ça déborde de mayonnaise, il y a du ketchup, du poulet.
And it has a beautiful design.
Le design est super beau.
I love it.
J'adore.
Everything is wonderful inside.
C'est magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur.
You love it?
T'aimes?
My husband is.
Mon mari est super occupé à manger parce qu'on n'a rien avalé de la journée.
We didn't have anything during the day.
On a seulement bu.
We are starving. Yeah.
On est affamé.
Yeah, it is.
Super. Raa, depuis quelques jours, m'envoie plein de messages pour me dire qu'elle a trop hâte de nous rejoindre et remercier tous ceux et celles qui ont aidé pour son évacuation. Le stress a laissé place à l'excitation.
J'ai tellement, tellement hâte de revoir Marwa, ça fait presque 2 ans. Et Caroline pour la première fois.
Je suis surexcitée de te rejoindre et d'aller chercher Raa à l'aéroport. J'ai hâte de la serrer dans mes bras, de la voir et de te voir aussi.
J'ai hâte de me lancer. Je sais que ça va être très dur de recommencer sa vie en Europe, mais je sais qu'on va y arriver parce qu'on a déjà traversé plein d'autres épreuves.
À tout de suite, gros bisous.
On va partir de la maison à 6h du matin. C'est hyper excitant.
Dans le prochain épisode, Raa monte enfin dans l'avion pour la France. J'ai évidemment hâte de la rencontrer, et aussi par procuration que vous la rencontriez également. Et contrairement à mes projections pessimistes, ce sera un peu Emily in Paris.
When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom.
Outside Kabul, et un podcast de France Inter.